Un mot très important dans cet évangile de Jean, c'est le mot justement témoin ou témoignage. Nous avons déjà eu plusieurs témoignages ce matin. Mais dans l'évangile de Jean, cette idée de témoin ou de témoignage, c'est l'idée de preuve. Quelqu'un qui rend témoignage, par exemple, devant un tribunal, devant un jury. Un procureur va faire venir des témoins ou des preuves pour arriver à la bonne conclusion. Ou par exemple, la gendarmerie va lancer un appel à témoins pour essayer de savoir ce qui s'est passé et apporter justice contre les criminels. Et quand tous les témoins s'accordent sur la même version des faits, quand tous les témoins s'accordent sur la même chose, c'est bon signe qu'on a la vérité. Et ce passage, en fait, c'est un appel à témoins pour arriver à une conclusion sur la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et Jésus va, l'écrivain Jean, et Jésus va aligner un certain nombre de témoins pour essayer de prouver qu'il est bien la personne qui dit être, notamment le Fils de Dieu, Dieu envoyé sur terre pour sauver, pour être la solution de nos vies. Et grâce à tous ces témoins dans ce passage, nous pouvons nous aussi arriver à la bonne conclusion sur Jésus-Christ et le suivre et être sûr que notre foi en lui est solide. Alors, on va essayer de suivre un peu le projet de Jean. D'abord, il fait entrer les témoins. Ensuite, on va voir que l'absence de preuves n'est pas finalement le problème qui empêche la foi. Et enfin, on va faire entrer l'accusé. Tout d'abord, faisons entrer les témoins. Dans la pensée juive, il fallait deux ou trois témoins pour établir la vérité d'une chose. Et ça, c'était une habitude, une pensée très forte, notamment dans le système judiciaire des Juifs qui vient de la loi de Moïse. Il fallait deux ou trois témoins pour procéder à une accusation contre quelqu'un. Un seul témoin ne suffit pas. Et d'ailleurs, ce principe, c'est un principe sage pour toute la vie. Il ne faut pas se contenter d'une seule version des faits. Si vous dites « oui, mais j'ai lu ça sur un site web, c'est tout », peut-être il faut aller creuser un peu plus. Ou « quelqu'un m'a dit ça dans l'église », alors c'est parfois il faut entendre l'autre personne ou avoir plusieurs témoins qui attestent la chose avant d'arriver à la conclusion. Ça peut nous garder de beaucoup de mauvais jugements et de mauvaises conclusions, même dans une vie d'église, de fonctionner avec ce principe d'entendre plusieurs témoins attester d'une chose. En tout cas, Jean et les Juifs autour de lui connaissaient très bien ce principe de deux ou trois témoins. Jésus va même le souligner plus tard dans cet évangile qu'il faut deux ou trois témoins pour établir la vérité. Mais ce qu'il faut ici, c'est qu'il va aller bien au-delà de deux ou trois témoins. Il va nous donner, j'ai compté, vous pouvez les compter peut-être en parcourant ces versets, je vous invite à repérer les témoins, mais moi j'ai compté 6 ou 7. Donc c'est pas 2 ou 3, mais c'est 6 ou 7 pour montrer la générosité de Dieu, à quel point Dieu veut que notre foi soit appuyée sur des témoins et des preuves. Alors on va essayer de faire la liste, d'aligner ces témoins, de faire entrer les témoins les uns après les autres, qui vont tous s'accorder sur la même chose concernant Jésus-Christ. Le premier témoin en verset 31, c'est Jésus. Il dit, si moi-même je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Quelque part, juste Jésus, quand il annonce ce qu'il est, quand il dit « je suis le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Roi », ça devrait suffire, parce que Jésus lui-même, il est la vérité, il ne peut pas mentir. On devrait simplement croire Jésus sur parole, on a déjà vu ça. Et en chapitre 8, verset 14, il va dire « quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai ». Donc quand Jésus parle de lui-même, ce qu'il dit est vrai. Mais Jésus accepte en quelque sorte que dans un tribunal, cela ne suffit pas. Et par là, il nous invite à nous méfier des autoproclamés. Et d'ailleurs, beaucoup de religions ont commencé simplement parce qu'un homme a eu une idée et qu'il l'a annoncée. Et voilà, tout le monde s'est mis à le suivre. Mais un autoproclamé, pas forcément qu'on a toute la vérité. Alors, un deuxième témoin qui fait venir dans les versets suivants, versets 32 et 35, c'est Jean-Baptiste. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, Jean-Baptiste bénéficiait d'une réputation et d'une autorité importante, même appréciée. Les Juifs avaient l'habitude de ces prophètes. Il y avait quand même un respect pour les prophètes et pour leur histoire dans l'Ancien Testament, des grands prophètes comme Moïse, comme Élie, comme tous les prophètes qui ont parlé. Et donc, il y avait un certain respect des prophètes, une attente des prophètes. Il y avait 400 ans de silence, pas de prophète. Et puis arrive cet homme, Jean-Baptiste, et il se présente quand même à l'image du grand Élie. Et donc, ils sont attirés par ce prophète et ils reconnaissent une autorité en lui, une autorité qui vient de toute leur histoire. Et je pense que vous-même, nous-mêmes, nous savons parfois, nous rencontrons des personnes, nous entendons des messages, et nous sentons une passion authentique, nous sentons qu'il y a une colonne vertébrale où la personne n'est pas juste en train de répéter ce que la culture veut entendre, mais qu'il y a une passion, une soif, comme Jean était cette lampe qui brûle et qui, lui, les gens voyaient quelque chose d'authentique, de passionnant qui venait de lui. Ils étaient attirés vers lui et beaucoup se sont fait baptiser par lui. Et on constate que dans les évangiles, même ceux qui ne supportaient pas son message, même ceux qui n'aimaient pas ce qu'il disait, comme le roi Hérode, ça dit qu'il écoutait avec plaisir, il le reconnaissait comme un homme saint et juste. Et il voulait l'entendre. Donc Jean-Baptiste, quand même, même pour ceux qui n'aimaient pas son message, il reconnaissait un vrai prophète de l'Éternel. Et ce vrai prophète, il dit, oui, Jésus est bien ce qu'il dit être, il est le Sauveur, il est l'agneau de Dieu, allez le suivre. Le troisième témoin qu'on va faire entrer, à partir du verset 36, c'est, Jésus dit, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoigner de moi. Donc voilà un troisième témoin. Ce sont les œuvres de Jésus. Et ces œuvres, c'est notamment ces miracles, comme celui qui vient de faire, de guérir le paralytique. On a déjà vu comment il a transformé l'eau en vin, comment il a guéri le fils de l'officier, du haut fonctionnaire. Et pour Jean, ces œuvres de Jésus, c'est ces miracles, mais aussi un peu les discours qu'il va dire, les paroles qu'il va prononcer, ça fait partie de ses œuvres. Et Jésus dit, regarde à mes œuvres. Regarde à ces miracles que je fais, ces œuvres témoignent de ce que je suis. Et certains de ces miracles, il fallait être Dieu pour les faire. Et Jésus les fait. D'ailleurs, il est extrêmement rare de trouver des fondateurs de religion qui, de leur vivant, affirment avoir fait des miracles. Parce que c'est la chose la plus facile à démentir. Souvent, des miracles ou des légendes de miracles s'ajoutent, mais c'est bien des années plus tard, quand il n'y a plus vraiment les témoins pour confirmer. Mais Jésus, de son vivant, affirmait faire des miracles devant tout le monde. Mahomet, par exemple, il n'a fait aucun miracle. Bouddha, voilà ce qu'il dit des miracles. Il dit « Je les déteste, je les rejette et je les méprise ». Donc, ces gens-là, ils faisaient pas des miracles parce qu'ils pouvaient pas les signaler comme preuve. Mais les signes de Jésus, ces miracles de Jésus étaient des forts témoignages de sa personne. En plus, il a toujours fait ses miracles devant témoins. C'était toujours des choses vérifiables et c'était toujours des choses conséquentes. Pas juste guérir un mal de tête ou un mal de dos, mais c'était ressusciter un mort, c'était guérir un paralytique que tout le monde voyait tous les jours être là et pouvait reconnaître. Donc les œuvres de Jésus sont des témoins qui parlent de lui et ses miracles. Après, il fait venir un quatrième témoin dans le verset suivant. Donc le Père qui m'a envoyé me donne les œuvres. Et verset 37, pour enchaîner, il dit « Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi ». Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. On se demande à quel moment est-ce que le Père rend témoignage de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y avait ce moment lors de son baptême où il y avait une voix qui s'est fait entendre du ciel. « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et donc c'est vrai qu'il y avait un moment fort comme ça où vraiment la voix du Père, la voix du ciel va témoigner de son Fils. Mais au-delà de ce moment précis à son baptême, le témoignage de Dieu le Père à son Fils, c'est que Dieu le Père a conduit toute l'histoire pour diriger les regards vers Jésus-Christ Et donc, toute sa manière, que toute l'histoire juive, et puis toute sa naissance, et les anges, et puis la manière qu'il conduit Jésus en permanence, tout ça, c'est le Père qui rend témoignage et qui dirige les regards du monde entier vers Jésus-Christ. Et puis, c'est aussi... Jésus continue avec un cinquième témoignage en verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez en avoir, elles, la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça va avec le Père qui rend témoignage de Jésus, mais la parole du Père, la parole de Dieu aussi rend témoignage de Dieu. Et Jean nous montre tout au long de son évangile à quel point l'Ancien Testament, ces Écritures que ces Juifs lisaient, à quel point ces Écritures pointaient et témoignaient de Jésus-Christ. Notamment le tabernacle ou le temple, ou les sacrifices, ou les agneaux, ou le serpent d'airain, ou les promesses d'un Messie qui viendrait de David, de Bethléem. En fait, toutes ces écritures, tous ces détails dans ces écritures pointent vers Jésus. Et là, Jésus dit quelque chose d'étonnant. Il dit, si on étudie et lit les écritures, pour eux, c'était l'Ancien Testament, ils n'avaient même pas encore les évangiles et les épîtres, ils n'avaient que l'Ancien Testament, c'était leurs écritures. Si on lit et si on étudie les écritures, même à un niveau académique, même dans la langue originelle, sans venir à Christ, on n'a pas compris, on n'a rien compris. Et Jésus, il parle aux gens, vous vous rappelez, il parle à des gens qui connaissaient les écritures par cœur. Et il leur dit à eux, la parole ne demeure point en vous, parce que vous ne voyez pas la personne à qui pointent les Écritures. D'ailleurs, pour un exemple, imaginons que vous voulez partir d'ici en voiture et votre destin, vous voulez aller à Paris. Alors vous dites, je vais suivre les signes, les panneaux qui vont me conduire à Paris. Alors je pense que c'est pas difficile, même vous prenez à... Prenez à gauche, là, en sortant, hein. Et puis, rapidement, vous allez voir un panneau qui, vers l'autoroute. Et je crois déjà ici, c'est marqué Montauban, Paris, Bordeaux. Et donc, à partir, vous montez sur l'autoroute. Et chaque fois que vous voyez un panneau, Paris, vous prenez Paris. Donc, vous faites ça. On serait étonné si vous revenez en disant, j'ai jamais trouvé Paris. J'ai pas vu. Alors, Paris n'existe pas. J'ai vu les panneaux, mais j'ai jamais vu Paris. Donc, c'est quand même difficile de ne pas tomber sur la ville de Paris en suivant les autoroutes en France. Et de la même manière, les gens, ils lisaient cette Bible avec des signes, des panneaux indicateurs, des promesses, des prophéties constantes qui parlent de Jésus. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit, non, on n'a pas vu. Et ça ne doit pas exister. Donc, après, un autre témoin... c'est Moïse, c'est peut-être ça va avec les Écritures, donc vous comptez un seul témoin ou bien deux témoins différents, mais là c'est le témoin qui leur était le plus parlant peut-être, dont ils se réclamaient de plus, ces autorités religieuses, ils se disaient, nous on est des disciples de Moïse, nous on écoute tout ce que dit Moïse, nous on fait tout ce que dit Moïse, ils étaient très fiers de leur attachement à Moïse. Alors Jésus dit, mais ok, très bien, mais croyez Moïse parce que Moïse a parlé de moi. Et on a lu ce passage en Deutéronome notamment, où Moïse parle clairement d'un Dieu qui va exaucer leurs prières. C'est curieux, ces ancêtres de ces autorités, quand ils ont été devant Dieu au mont Sinaï, ils ont dit, oh non, 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 on ne veut pas entendre ta voix, on ne veut pas voir ta face, ça nous fait trop peur. Alors Dieu répond à cette requête, il envoie Jésus pour qu'ils n'ont pas besoin d'entendre directement la voix de Dieu ou voir directement sa face pour ne pas être éblouis. Et quand ils voient Jésus, ils sont déçus, ils veulent entendre la voix de Dieu, ils veulent voir la face de Dieu, et alors qu'il est juste devant eux en Jésus-Christ. Et donc, c'est le comble de l'ironie, c'est que le Moïse dont ils se réclamaient, ce Moïse parle de Jésus-Christ. Cet attachement à Moïse, c'est peut-être un peu comme les Français avec Charles de Gaulle. Tout le monde se réclame de Charles de Gaulle. Tout le monde veut propager son programme et se réclamer de lui. Et c'est un peu l'idée ici. Nous, on suit Moïse. Alors que le programme de Moïse, c'était de témoigner de Jésus-Christ. Donc, ça fait 6. Moi, j'ajoute un septième, si vous voulez. Il est partout dans ces versets. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais en fait, c'est celui qui écrit ces lignes. C'est Jean, Jean l'apôtre, Jean l'écrivain. Il attend la fin de l'évangile pour se dévoiler un peu plus. Mais il va dire en chapitre 21, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses. Il était présent avec Jésus depuis le début. Il a vu son ministère, il a vu sa mort, il a vu sa résurrection. Et à la fin, il dit, moi, je rends témoignage de ces choses. Et nous savons que son témoignage est vrai. Donc, ça fait 7 témoins. Dans une culture qui avait besoin de 2 ou 3, Jésus leur donne 6 ou 7. C'est merveilleux. En plus, Jésus a bien choisi ses témoins et ses preuves. Chacun de ces témoins avait un poids et une grande autorité dans la pensée juive. Parfois, vous savez, un avocat va appeler un témoin, mais la défense va essayer de montrer qu'il n'est pas très crédible. Si le témoin, peut-être il a bien vu, mais si il fait de la prison ou il est impliqué dans un trafic de drogue et tout ça, le jury va peut-être mettre en doute sa parole. Mais pour ces témoins ici, chaque témoin, les Juifs vont accorder une grande crédibilité à Moïse, aux Écritures, à Dieu le Père, à Jean-Baptiste, le prophète. Normalement, ils ne vont pas mettre en doute leur témoignage. Chacun constitue un argument à massue pour cet auditoire, ce qui est fort, c'est le génie du choix des témoins. C'est comme si aujourd'hui on fait appel à la science pour témoigner de l'existence de Dieu, pour témoigner de la foi. On pense que la science est là pour contredire ou défaire Dieu, mais de plus en plus on constate que la science est un témoin qui valide le message de la Bible, qui parle en faveur de Dieu. Et un jour, la science va se lever et accuser les scientifiques de leur incrédulité. J'ai lu ça récemment, un témoignage, donc encore un témoin qui peut nous aider ce matin. C'est l'histoire d'un paléontologue allemand. Il s'appelle Günther Beckli. C'est un grand spécialiste des fossiles. Et il était responsable d'une grande exposition qui fêtait l'anniversaire de la naissance de Darwin il y a quelques ans, je crois que c'était en 2009. Il y avait une grande expo qui célébrait Darwin et son héritage. Et c'était lui le directeur, le responsable de ce musée, de cette exposition, qui a attiré cette année-là 90 000 visiteurs. Donc c'était un grand truc en Allemagne. Et lui-même avait conçu un stand dans ce musée, dans cette expo. C'était une balance. Et sur la balance, d'un côté, il avait mis la Bible et des livres sur le créationnisme. C'est le livre écrit par les chrétiens qui raconte comment Dieu a créé le monde et tout ça. Donc, il a mis plein de livres sur un côté de la balance, mais mis en haut. Et en bas de la balance, il a juste mis le livre de Darwin, Les origines des espèces. Il a mis c'est un petit livre qu'il a mis. Et donc, avec beaucoup de la Bible et beaucoup de livres ici, en haut, et un petit livre, L'origine des espèces, en bas, qui pesait dans la balance, c'était pour dire, voilà, un mot de la science pèse plus lourd que toute la foi. La chose que pour faire ça, il s'est mis à lire certains de ses livres sur le créationnisme, sur la création. Et il a commencé à voir que la science elle-même parle en faveur d'une intelligence derrière la création. Et plus qu'il a lu ses livres et il a trouvé des auteurs, vraiment des scientifiques, plus qu'il constatait que la science était elle-même un témoin en faveur de l'existence de Dieu. Et par la suite, il s'est affiché croyant. Un beau témoignage. Et ça montre que, comme quoi, un témoin qu'on pense parle contre Dieu, finalement, c'est ce témoin qui va attester plus que tout en faveur de Dieu et de la foi. Et c'est ce que ces Juifs pouvaient vivre aussi. Tous ces témoins, ils pensaient que ça parlait en leur faveur, mais finalement, ils avaient toute une autorité pour parler en faveur de Jésus-Christ. Et par là, je pense que Jean veut nous convaincre qu'il existe ample preuve et témoin si pour celui qui veut connaître la vérité, qui veut avancer avec la foi, qui veut connaître Jésus-Christ, il y a une ample quantité de témoins. Dieu est généreux dans ce qu'il donne pour ceux qui cherchent sa vérité. Mais ensuite, Jésus va montrer que le problème n'est pas dans l'absence des preuves. Vous savez, beaucoup d'enquêteurs sont embêtés par l'absence de témoins. ou bien les témoins se contredisent et c'est dur d'arriver au verdict, ou telle preuve n'est pas admissible au tribunal, même si ce serait une preuve intéressante, on ne peut pas l'admettre. Ou un bon avocat a trouvé un vice de forme, et donc on ne peut pas arriver au verdict. Mais ce n'est pas le cas ici. Tous ces témoins sont valables, tous ces témoins sont béton, leur témoignage s'accorde sur la personne de Jésus-Christ, et pourtant beaucoup ne croient pas. Ces gens-là ne croyaient pas. Vous ne croyez pas. Et de plus en plus dans l'évangile de Jean, on va voir cette incrédulité croissante et de plus en plus de reproches de la part de Jésus, des gens qui ne croient pas en lui. Pourquoi on a du mal à croire? Pourquoi les gens ont du mal à croire malgré tous ces témoins, toutes ces preuves que Dieu nous offre? Et Jésus répond à ça dans les versets 41 et 44, notamment verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Comment pouvez-vous croire, vous qui cherchez la gloire des uns des autres? Vous voyez pourquoi ils ne pouvaient pas croire? Ce n'était pas l'absence de preuves, c'est parce qu'ils avaient soif. Ils dépendaient de la gloire et la réputation des hommes. Et ils ne cherchaient pas la gloire qui vient de Dieu seul. Selon Jésus, lorsque quelqu'un ne croit pas, ce n'est pas parce qu'il a fait un constat neutre, qu'il a examiné toutes les preuves et qu'il trouvait que ce n'était pas assez. Selon Jésus, c'est parce que souvent il y a des enjeux personnels. Il y a des enjeux qui touchent à notre ego, qui touchent à notre identité, et ça, on ne veut pas lâcher. Prenons le cas d'un juge, d'un procureur qui écoute un procès, et qui a tous les témoins, il y a suffisamment de témoins, et au fond de lui-même, il sait le verdict qu'il doit rendre. Mais imaginons que s'il acquitte l'accusé, par exemple, il a un conflit d'intérêts, parce qu'il connaît l'accusé, ou ça s'est mêlé avec ses propres affaires. S'il acquitte l'accusé, il risque de ne pas être réélu, par exemple, ou il risque de perdre son poste, ou il risque autre chose. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît la vérité, mais il sait ce que ça va lui coûter de prononcer le verdict. Et quelque part, c'est le cas pour nous tous devant Dieu. Il a sa vérité, mais dès qu'on accepte cette vérité, nous allons perdre notre poste de roi de notre vie. Et c'est ça qui est difficile. Pourquoi Nicodème va venir Jésus la nuit? Nicodème dit, nous savons que tu viens de Dieu, il n'y a personne qui peut faire les miracles que tu veux et qui ne viennent pas de Dieu, mais quand même il doit venir voir Jésus de nuit, pourquoi? Que va penser mes collègues? Est-ce que je vais perdre ma chaire de théologie s'il me voit avec Jésus? Vous voyez, Nicodème, personne n'est neutre quand on fait face à Jésus. Heureusement, Nicodème s'en est sorti, mais grand nombre de ses collègues ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas croire parce qu'ils recevaient et tiraient leur gloire des hommes. Quelqu'un qui se fait baptiser, par exemple, juste pour faire plaisir à ses parents, ou pour recevoir les cadeaux traditionnels un jour de baptême, tout le monde va dire, ah, ça c'est pas bien, ça c'est pas la vraie foi, ça c'est pas la vraie motivation de juste plaire aux gens, ou d'être vu par les autres, ou de recevoir des cadeaux. Et c'est vrai, ce n'est pas une bonne motivation de se faire baptiser ou d'avancer avec Dieu. Mais beaucoup ne vont pas croire en Jésus pour les mêmes raisons. Pour plaire aux gens, pour recevoir des privilèges, des honneurs, des cadeaux. Et finalement, Jésus dit qu'il y a souvent des motivations égoïstes derrière un manque de foi. Et si on est facile à critiquer quelqu'un qui se fait baptiser pour des motivations personnelles, il faut avoir aussi l'honnêteté de dire parfois mon manque d'engagement vient de ce que je pense trop à ce que les autres pensent de moi. Pour être libre d'examiner la vérité d'arriver à la bonne conclusion, il faut pouvoir dire comme Jésus, je ne tire pas ma gloire des hommes, verset 41. La seule manière de faire ça, c'est de chercher le regard et la gloire de Dieu. C'est d'avoir le verdict favorable dans son tribunal. Et quand on a cette gloire, cet honneur-là, On n'est pas dépendant, on n'est pas esclave de ce que les autres pensent de nous. Et c'est pour ça que c'est le moment de faire entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé. Jusqu'à là, on a l'impression que c'est Jésus l'accusé et que nous sommes le jury qui doit décider s'il est bien ce qu'il dit être. Et jusque là, on faisait venir des témoins et des preuves pour établir son innocence ou pour savoir s'il blasphémait, parce qu'il est en quelque sorte accusé de blasphème ici. Donc Jésus c'est l'accusé et on fait venir des témoins qui vont le réhabiliter. Mais Jean nous réserve une petite surprise à la fin de ce texte, en verset 45. Jésus leur dit, « Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. » Qui est l'accusé? Qui est le procureur? Qui est le juge? Et là, Jésus vient de renverser la donne. Finalement, l'accusé, ce n'est pas Jésus. Il est procureur, il est juge, il avait dit le verset 30 juste avant notre texte. « Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. » L'accusé n'est pas Jésus, l'accusé c'est son entourage qui ne le reçoit pas. L'accusé c'est vous et moi tant que nous ne venons pas à Jésus, tant que nous ne faisons pas confiance à tout ce qu'il a fait pour nous. Il y avait une exposition d'art dans un musée avec des artistes de renom. Un jeune était entré, il a fait le tour des tableaux, de ses ouvrages, et à la fin, en sortant, il a dit au guide, c'était nul, quoi. Alors c'est vrai que certains ouvrages d'art moderne, il faut avoir l'honnêteté de dire, c'était nul, quoi. Mais on va dire que c'était pas le cas, que c'était des vrais ouvrages de renom avec des artistes qualifiés. Donc quand ils disent, c'était nul, quoi. Le guide lui a répondu, vous savez, ce sont pas eux qui sont soumis à l'évaluation, c'est vous. Qui évalue qui? Si j'écoute un morceau de Bach ou de Beethoven et je dis bof, c'est pas un jugement contre Bach que je prononce, c'est un jugement contre moi-même que je prononce. Et c'est là la surprise de ce texte, tous ces gens qui accusaient de Jésus de blasphème, qui le mettait, il s'accuse. Quelqu'un qui rejette tous les témoins et toutes les preuves qui pointent vers Jésus montre que c'est lui le problème. C'est pas Jésus le problème, c'est pas Dieu le problème, c'est lui le problème, c'est son cœur qui est le problème. Il y a un aveuglement volontaire de ne pas accepter ces preuves généreuses que Dieu nous donne. Et même nous, dans notre foi, souvent nous voulons que Dieu nous justifie ses actions, son comportement, ses décisions. Et nous décidons s'il a bien fait ou pas. Mais la vie, c'est tout le contraire. C'est à nous de nous justifier de nos comportements, de notre vie, de ce que nous avons fait avec toutes les bonnes choses que Dieu nous a données. Il y a un moment, il y a une humilité qui dit... oui, Seigneur, pardon pour toutes les fois que j'ai pas vu les preuves de ton amour, les preuves de ta présence, les preuves de ta bénédiction dans ma vie. C'est pas à moi de t'accuser. C'est plutôt toi qui pourrais m'accuser de mauvais choix. Et j'ai besoin de toi et de ta grâce. On pensait que c'était Jésus l'accusé et nous les juges, mais c'est tout le contraire. C'est lui le juge et nous les accusés. Mais c'est là où Jean réserve encore une autre surprise dans cet évangile. Et tout ce langage de témoin, de jugement, de tribunal, Jean aime ce langage de ce vocabulaire parce que c'est vers quoi il dirige son récit, un tribunal. Et tout le récit de l'évangile de Jean conduit vers un procès, vers un tribunal. Et dans ce tribunal, ils vont accuser Jésus de blasphème et ils vont condamner Jésus sans preuve. Là, ils n'ont même pas trouvé les deux ou trois vraiment qui s'accordaient. Sans véritable témoin, ils vont l'accuser, lui, de blasphème. Ils vont obtenir une sentence de mort. Lui, le juge, il va mourir, faussement accusé. Mais nous découvrons que Jésus a fait tout cela pour nous, pour prendre notre place d'accusé, pour prendre notre place de condamné. Même ici, il dit à ces gens, il dit, je dis ça afin que vous soyez sauvés. Et un jour, il va se mettre en croix afin que vous soyez sauvés. Donc là encore, c'est la surprise. Le juge prend la place de l'accusé à la croix pour nous innocenter et pour nous élever en honneur, pour que nous puissions obtenir cet honneur et cette gloire. Les hommes le cherchent auprès les uns des autres, mais nous pouvons recevoir la gloire qui vient de Dieu lorsque nous le cherchons à la croix, quand Jésus a pris notre condamnation et qu'il a remplacé notre mort et notre condamnation avec sa justice et sa gloire. Et c'est Jean veut être témoin de ça surtout, témoin de la manière que Jésus le juge a pris la place de l'accusé pour que nous ayons la gloire et la réussite et le bonheur. Et quand on écoute ce témoignage-là, voilà, on est délivré, on est libre pour marcher dans la vérité et pour servir Dieu.